Bonjour, moi c'est Thibaut.
Et moi c'est Benoît.
Ensemble, à travers notre chaîne Two Disciples,
on part à la découverte de la façon dont Dieu agit
dans chaque époque et chaque culture, en particulier aujourd'hui. Bonne écoute.
Phare FM vous présente Two Disciples.
Allez,
allez, c'est parti.
Tout le monde connaît Bob Marley, le roi du reggae. Mais l'homme dont on va vous parler aujourd'hui a une histoire bien plus impressionnante et saisissante. Mark Moore a consommé de la drogue dure à 10 ans en écoutant les musiques de la plus grande icône du reggae. Mais la suite de l'histoire va être bien différente de celle de Bob.
Bobby.
Mark Moore va faire du reggae, mais chrétien. Aujourd'hui, il a parcouru 91 pays, fait des milliers de concerts, plus de 30 albums et des top 1 dans tous les sens. Dans cette vidéo, on va parler de Christafari, le groupe de musique fondé par Mark Moore, et de sa conversion pour passer de jeune rasta drogué à chanteur de reggae missionnaire. On ira creuser aussi comment en France, une scène chrétienne de reggae est en train d'émerger, grâce notamment à Fratoum, le chanteur des Guetteurs, qu'on a eu la chance d'interviewer. N'oubliez pas de vous abonner, découvrons ensemble l'histoire invraisemblable de Bob Marley chrétien. Mark Moore naît le 23 octobre 1971 à Los Angeles.
LA baby.
La foi est très présente dans sa famille. Et à l'âge de 3-4 ans, Mark fait une prière et ressent déjà une présence de Dieu. On pourrait se dire que ça commence bien pour ce petit enfant. Et vous avez raison, ça va bien se passer jusqu'à ses 9 ans. C'est là que ça se complique.
À cet âge-là, il commence à partir en sucette et il va aller super loin. Avec ses amis, il boit régulièrement de l'alcool, il fume de la marijuana. Et à 10 ans, il achète pour la première fois de la cocaïne. À 10 ans.
Qui a fait ça chez vous?
Au même âge, Jonathan Roumi portait sa croix.
J'avoue.
En 1986, alors qu'il a 15 ans, sa vie va prendre un tournant. Il se rend en Jamaïque avec ses parents pour des vacances. Et en Jamaïque, au-delà des plages et de la détente, il va découvrir le reggae. Mark Moore tombe amoureux de ce style musical et en rentrant aux États-Unis, il se met à écouter non-stop du Bob Marley, il se fait des dreadlocks et il apprend même le patois jamaïcain. Ça devient un vrai Rastafari.
Bon, vous l'imaginez, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Meth, crack, LSD, il va tester toutes sortes de drogues et parfois fait même de sérieux bad trips. Et à 16 ans, il se dispute violemment avec son père et décide de quitter la maison. Il devient SDF, il dort sur la plage, passe ses journées à se battre, à boire et à se droguer. Un matin, il se réveille dans son propre vomi.
Dégueu.
Au bout du rouleau et fatigué de cette vie, il décide de retourner chez ses parents. Tel le fils prodigue, son père l'accueille les bras ouverts, mais les tensions demeurent dans cette famille. Pour l'instant, on est d'accord, sa vie est compliquée pour lui et ses parents. Mais l'été 1989 va marquer un sérieux tournant dans la vie de Mark Moore.
Mark Moore a 17 ans et avec ses amis, il veut partir à Hawaï. Bon, évidemment, pas pour faire des vacances tranquillou, bilou bilou. C'est surtout en vue de se droguer.
T'as l'impression de faire une enquête d'action.
En vrai, j'ai pas trop assisté, mais dans les interviews, il dit qu'il est hyper accro au sexe.
Les parents de Mark l'autorisent à partir à une condition. Il doit d'abord participer à un camp chrétien le même été. Il a déjà fait plein de trucs du genre. Il accepte le deal.
Dans le bus pour y aller, il se retrouve entouré de plein de chrétiens qui chantent le nom de Jésus. Et Mark, lui, c'est vraiment pas son délire. À peine arrivé, il va essayer de chercher quelqu'un qui lui ressemble, parce que sinon il sent que la semaine va être un peu longue. Il rencontre Marcus. Lui aussi aime le reggae, lui aussi faisait partie avant d'un gang, et lui aussi se droguait. Il y avait tout pour que ça marche entre eux. Mark est interpellé par Marcus. Ils sont pareils, mais pourtant pas tout à fait. Mark voit dans les yeux de Marcus quelque chose de différent, quelque chose en plus, une certaine lueur. Alors, il va lui poser cette question.
Marcus, on a tellement de points communs, mais pourtant, il y a quelque chose qui est pas pareil entre nous. C'est quoi la différence?
L'amour de Dieu.
Toute la nuit, Mark repense à cette phrase. Ils ont des vies similaires, mais Marcus a ce petit truc en plus. Le lendemain, il décide de se mettre à genoux et fait cette prière.
I'm done. I reached the end of myself. I said I can't do it on my own. I need you. I am done with this sin. I am not gonna do this anymore.
Mark vient de donner toute sa vie à Dieu. Il veut arrêter la drogue, le sexe, l'alcool et toutes ses addictions. Mais cela crée un vide qu'il faut remplir.
Sur les conseils de Marcus, Mark décide de prier tous les jours avec la parole de Dieu. Pendant ce camp, la relation entre Jésus et Mark grandit, mais ce qu'aime par-dessus tout Mark, c'est le reggae. Comme on le disait, il vit littéralement pour le reggae. Il avait même choisi comme surnom au lycée le futur Bob Marley. Il était attiré par le mouvement Rastafari où on parlait de Jah, le diminutif pour parler de Dieu. Donc pour lui, c'était parfait, la religion de ses parents, mais en pouvant fumer de la drogue. Mais après sa conversion, Mark est prêt à tout quitter, y compris le reggae.
Quand il prie pour ça, le Seigneur l'interpelle et lui dit non, tu dois pas quitter le reggae, tu dois mettre moi plus le reggae et ça va faire un cocktail de ouf.
Tire à peu près ces mots-là, quoi.
Environ. À cet appel, Marc répond oui. Il rentre chez lui, le cœur brûlant. Quelques semaines après, il accepte de faire un camp de jeunes et fait partie de l'animation et il compose sa première chanson de reggae chrétien. C'est là qu'un gars du camp lui dit « Mais en fait, t'es plus un Rastafari, t'es un Christafari. » Ce nom va rester et c'est le début d'une nouvelle vie pour Marc Born. Mais avant de parler plus de la carrière de Marc Mor avec le groupe de Christafari, il nous faut comprendre un peu plus dans quel terrain est enraciné Marc. Qu'est-ce que le reggae? Qu'est-ce que Rastafari? D'où ça vient?
Tout à fait. Commence en Jamaïque. L'histoire de ce pays est marquée par le colonialisme. Je vais pas y arriver.
L'histoire de ce pays est marquée à la fois par le colonialisme et l'esclavage qui va avec.
Pendant 3 siècles, la Jamaïque va être exploitée pour son sucre par les Anglais. Et pour cela, ils vont faire venir d'Afrique un demi-million d'esclaves. En 1834, l'esclavage est aboli, mais il reste de fortes tensions entre les Noirs et les Blancs. C'est enraciné dans cette histoire douloureuse que naît le mouvement Rastafari et le reggae.
Alors, commençons par le mouvement Rastafari. Il naît dans les années 30 et c'est à la fois un mouvement social, politique et spirituel. Ce mouvement est une conséquence de l'esclavage. Les Noirs jamaïcains remettent en question toute l'interprétation de la Bible, ils trouvent qu'elle est trop occidentale et ils veulent amener une nouvelle lecture. Ils veulent s'approprier davantage les écritures et ils commencent à mettre en avant l'Éthiopie comme si c'était la nouvelle Sion. En 1921, Marcus Garvey reprend la phrase d'un pasteur américain qui dit « Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, c'est lui qui mènera le peuple noir à sa délivrance. » Cette phrase est considérée par tous les Rastas jamaïcains comme une prophétie.
Mais du coup, le nom Rastafari, ça vient d'où? Il faut faire un petit détour par l'amharique, la langue traditionnelle d'Éthiopie. En 1930, l'Éthiopie couronne un nouvel empereur, Tafari. Et Ras, ça signifie « tête » en amharique. On donne ce nom aux représentants politiques d'un pays. Donc le Rastafari, c'est juste l'empereur d'Éthiopie. Et le Rastafari choisit comme nom d'empereur Haile Selassie Ier.
En Jamaïque, la nouvelle du couronnement est comme une bombe. La prophétie, répétée par Marcus Garvey, s'est enfin accomplie. Et là-bas, il y a plein de communautés qui se forment et qui considèrent Haile Selassie comme le nouveau messie. Leur quotidien, c'est lire la Bible chaque jour, fumer de la marijuana, et c'est un peu comme une sorte de prière pour eux. Mais leur rêve, c'est surtout d'aller un jour s'installer en Éthiopie.
C'est un rêve tellement important qu'il y en a qui en profitent, notamment l'un des fondateurs de ce mouvement qui va vendre des photos d'Haile Selassie dans la rue en disant que c'était des passeports pour l'Éthiopie. Il a fait un petit peu de prison, ce mec. Surtout qu'en plus, tu sais que la marijuana, c'était illégal, en Jamaïque.
Marijuana.
Je sais pas si ça a été légalisé depuis.
Illégal.
Bref, le rastafarisme, ce n'est pas une religion ou une église, mais c'est un mouvement qui se base sur une lecture biaisée de l'Ancien Testament et qui considère l'empereur d'Éthiopie comme le Messie. Mais il y a également une vraie volonté de révolte. Il rejette Babylone et Babylone il l'associe au monde occidental.
Babylone.
Et ce rejet de Babylone, on le retrouve beaucoup dans le reggae.
À tous mes frères musulmans, je dis salam, salam. À tous mes frères juifs, je dis shalom.
Ce genre musical est né lui aussi en Jamaïque. En fait, il est né à cause d'une canicule. En 1966, il faisait tellement chaud qu'il y a des chanteurs de rocksteady qui se sont dit « On va ralentir un peu le rythme parce que les gens seront jamais capables de danser à ce rythme-là. » Et ces petits génies ont tout simplement posé les bases du reggae à ce moment-là. Très vite, les Rastas vont s'approprier le reggae.
Ils ont fait une musique de rébellion, de révolté, parce qu'il y avait un climat politique qui était très complexe, très troublé, et il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère sociale, beaucoup de guerres de gangs. Et cette volonté, non pas de s'immiscer dans le débat politique, mais au contraire de s'en extraire. Ne vous perdez pas dans les luttes politiques, la vraie lutte, elle est intérieure.
C'est une musique du peuple, une musique d'espérance et une musique spirituelle.
On y parle de Yah, Jah ou Yahvé.
C'est Jah.
Beaucoup d'artistes s'y mettent, mais il y en a un qui le popularise dans le monde entier, c'est un certain Bob Marley. Je sais pas si vous connaissez.
On va pas s'attarder trop sur Bob Marley, mais on pouvait pas faire une vidéo sur le reggae sans parler de lui. Il a rencontré le rastafarisme grâce à sa femme Rita au moment de son mariage. Dans les chants de Bob Marley comme Forever Loving Ya, ou dans son album le plus connu Exodus, il y a plein de références à l'Ancien Testament.
Donc c'est une mine d'or pour un compositeur la Bible, et ça les reggaemans ils l'ont bien compris. Les Rastas ils sont arrivés, et les Wailers et Bob Marley ont porté ce message au monde, mais en gros en mettant l'âme en premier plan. Et c'est ce qui a fait la particularité du reggae, c'est au milieu d'un contexte troublé, de dire en fait la priorité c'est notre âme. C'est là où je pense que le reggae peut toucher les chrétiens, et touche les chrétiens d'ailleurs.
Le reggae que jouait Bob Marley était un moyen puissant d'apporter un message de paix, de fraternité et d'amour. L'impact qu'il a eu dans le monde est immense. Mais Bob Marley et les Rastafari, bien qu'ils lisent la Bible et prient tous les jours, se trompent sur l'un des messages les plus importants. C'est bien le Christ qui est mort et ressuscité pour nous, et Haile Selassie n'est rien d'autre qu'un homme.
C'était Benoît.
Et c'était Thibaut.
Retrouvez toutes les vidéos de Two Disciples sur twodisciples.tv. TWODISCIPLES.tv. À bientôt sur Phare FM.